Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le pape François appelle la communauté internationale à s'engager contre la prolifération des armes. Devant 7 nouveaux ambassadeurs près le Saint-Siège non résidents, il a également pointé du doigt le phénomène des migrations forcées, éclairage dès le début de ce magazine. Nous nous attarderons aussi sur le prochain voyage du Saint-Père en Terre Sainte. Le père Lombardi a apporté quelques précisions lors d'une conférence de presse. Témoignage également dans cette édition du représentant permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève, qui a mis en garde contre l'usage des drones de combat, et entretien avec le père Mikalev. Il a rencontré au Mexique les femmes catholiques de Las Patronas qui viennent en aide aux migrants. Bienvenue dans ce magazine. Le commerce des armes et les migrations forcées, ce sont les deux thèmes que le pape François a abordés ce jeudi matin en recevant les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs près le Saint-Siège de la Suisse, de l'Afrique du Sud, du Libéria, de l'Éthiopie, du Soudan, de l'Inde et de la Jamaïque. Abordant la question centrale de la paix, le pape a souligné le paradoxe qu'il y avait à la vouloir tout en laissant proliférer les armes à travers le monde. Il a donc appelé la communauté internationale à entamer une nouvelle saison d'engagement concerté et courageux contre la prolifération des armes et pour leur réduction. Intimement liés aux armes qui entretiennent les conflits, celles des migrants contraints de fuir leur pays en guerre, ces migrations forcées sont de véritables tragédies humaines, selon le pape qui pointe l'hypocrisie des États en la matière. Xavier Sartre.
Sarebbe una assurda contraddizione parlare di pace, negoziare la pace e al tempo stesso promouvoir ou permettre le commerce des armes.
Ce serait une contradiction absurde de parler de paix, de la négocier et en même temps de promouvoir ou de permettre le commerce des armes. Ce serait même, ajoute le pape, un comportement cynique dans un certain sens de proclamer les droits de l'homme et dans le même temps d'ignorer ou de ne pas prendre soin des hommes et des femmes qui meurent en tentant de migrer ou qui ne sont pas aidés par la solidarité internationale. Le pape met le doigt sur les incohérences des États qu'il invite à dépasser la simple gestion d'urgence d'un problème symbole de notre époque. Des États qui devraient, selon lui, adopter un regard politique sérieux et responsable qui implique tous les niveaux, mondial, continental, national et local. Et de révéler un nouveau paradoxe entre, d'une part, des histoires étonnantes d'humanité, de rencontres, d'accueil, de personnes et de familles qui sont parvenues à retrouver la dignité, la liberté et la sécurité. Et d'autre part, des histoires qui font pleurer et qui sont honteuses. Celles de ces migrants qui affrontent des voyages éreintants et qui subissent le chantage, des tortures, des abus de tout genre, pour finir parfois par mourir dans le désert ou au fond de la mer. Les États sont donc mis devant leurs responsabilités afin qu'aucun être humain ne soit violé dans sa dignité.
La commercialisation des armes, mais aussi l'utilisation des drones de combat, il en était question à la tribune de l'ONU, où Mgr Silvano Tomasi a pris la parole. On ne peut déléguer aux machines une décision concernant la vie et la mort d'êtres humains, a souligné le représentant permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève. Il faut, a-t-il précisé, que l'élément rationnel et la capacité de jugement moral demeurent toujours présents, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on utilise des appareils autonomes. Interrogé par nos confrères italiens au lendemain de son intervention à l'ONU sur les armes létales autonomes, Mgr Tomasi s'est aussi inquiété de la prolifération des drones, susceptible à ses yeux de causer une course internationale à ce type d'armement. On l'écoute.
Pendant cette semaine, on est en train de discuter l'utilisation de la part de la communauté internationale et des États spécifiques des systèmes, des armes complètement autonomes, armes qui vont provoquer la mort de personnes sans qu'il y ait une autre personne responsable de faire un jugement éthique correct. C'est le problème fondamental de cette nouvelle technologie qui est en train de se développer et d'être utilisée dans le contexte des conflits militaires. Alors, pour les Saint-Sièges, il y a une conviction fondamentale que la nouvelle technologie est bonne et utile si on va l'utiliser pour développer les pays pauvres, pour aider la qualité de la vie humaine, mais ça pourrait devenir un danger si on confie à ces instruments complètement autonomes la décision de tuer d'autres êtres humains sans que ces machines puissent faire un jugement éthique correct. Là est la clé du problème et pour arriver à une réflexion correcte, on a besoin de temps, de se consulter, de développer des critères qui prennent en considération la valeur de la vie et l'importance d'avoir un être rationnel et capable de jugement pour décider sur l'utilisation de ce type d'armes.
Des propos recueillis par Alessandro Gisotti. Il y a 6 mois déjà, devant les participants à la rencontre annuelle des États membres de la Convention sur l'interdiction et la limitation de certaines armes conventionnelles, Mgr Tomasi avait exprimé les préoccupations du Vatican quant à l'usage des drones dans les conflits armés. La visite du pape François au sanctuaire romain du Divin Amour, qui était prévue dimanche prochain, a été reportée à une date ultérieure. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le directeur du bureau de presse du Saint-Siège. Un report, a précisé le père Federico Lombardi, afin d'alléger les engagements du pape à l'approche de son voyage en Terre Sainte du 24 au 26 mai prochain. Cette visite, très attendue, a été présentée ce jeudi en salle de presse du Saint-Siège. Ce sera un voyage bref mais intense, a indiqué le père Lombardi. 3 jours pour 3 étapes fondamentales, Amman, Bethléem et Jérusalem, à l'occasion du 50e anniversaire de la rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras, Antonino Gallofaro.
L'œcuménisme sera au centre de ce deuxième voyage international du pape. Le deuxième jour du déplacement, François rencontrera en privé le patriarche de Constantinople, Bartholomée. La rencontre aura lieu dans la même pièce où Paul VI avait rencontré 50 ans plus tôt le patriarche Athénagoras à Jérusalem. Suivra ensuite la signature d'une déclaration commune. Puis les deux hommes participeront ensemble à la célébration œcuménique au Saint-Sépulcre. Là aura lieu la grande nouveauté de ce voyage, une prière commune. Le pape et le patriarche prendront ensuite la même voiture pour aller dîner au patriarcat latin. François prendra congé de Bartholomée le lendemain, lundi dans l'après-midi, dans une petite église gréco-orthodoxe sur le mont des Oliviers. Le souverain pontife a aussi souligné l'aspect interreligieux du voyage, jusque dans sa délégation. À ses côtés se trouveront un rabbin et un responsable musulman. Ce sont 2 Argentins, des proches du pape. Le rabbin Scorcia et Omar Ahmed Aboud, le secrétaire général de l'Institut du dialogue interreligieux en Argentine. Parmi les autres rendez-vous marquants, la rencontre lundi avec le président israélien Shimon Peres, avec le premier ministre Benjamin Netanyahou et avec le grand moufti sur l'esplanade des mosquées. François se rendra aussi au mur des Lamentations où il glissera une prière. Le jour précédent, le pape aura rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas à Bethléem. Sans oublier enfin la messe samedi dans le stade d'Amman en Jordanie où 1400 enfants feront leur première communion. Le pape fera un tour en Jeep découverte parmi la foule. Un voyage qui se déroulera dans un climat serein, selon le père Lombardi. Le porte-parole du Vatican a néanmoins condamné les actes de vandalisme.
À quelques jours de ce voyage du pape, le custode de Terre Sainte a invité les pèlerins à venir prier avec lui. Dans un message vidéo réalisé en partenariat avec le ministère israélien du tourisme, le père Pierre-Baptiste Apitsabal revient sur l'importance de la Terre Sainte dans la foi chrétienne et rappelle que Dieu s'est manifesté dans l'histoire, mais aussi dans un lieu géographique bien spécifique. Cette année, affirme-t-il, nous avons la joie d'avoir parmi nous un pèlerin très particulier, le pape François, qui viendra ici en pèlerinage de prière et de paix et rencontrera aussi les autres communautés chrétiennes, en particulier le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée. Il est donc important de l'accompagner dans la prière et encore plus important de venir ici avec lui en Terre Sainte afin de partager cette expérience de rencontre avec Jésus. Vous vous l'avez entendu il y a quelques instants, l'un des points qui était soulevé par le pape dans son discours aux ambassadeurs ce jeudi est le phénomène des migrations forcées. L'attention au sort des migrants, nous l'avons déjà évoqué à de nombreuses reprises, est l'une des priorités au cœur du pontificat du pape François. Lors de l'audience générale de ce mercredi, dans une nouvelle prise de parole, le Saint-Père avait appelé à prier pour les migrants ayant perdu la vie ces derniers jours en Méditerranée, en demandant que la priorité soit donnée aux droits humains. Depuis plusieurs mois, des dizaines de milliers de migrants ont tenté la traversée au péril de leur vie et l'Italie est confrontée à une très forte augmentation des arrivées en provenance notamment de Libye, une tendance qui, selon l'agence Frontex, va s'accentuer. Au cours des 4 premiers mois de l'année, 42 000 migrants ont essayé d'entrer illégalement dans l'Union européenne, soit 3 fois plus que sur la même période en 2013. C'est ce qu'indique le directeur adjoint de l'agence européenne chargée de la coopération aux frontières extérieures de l'Union européenne. Les pays européens sont loin d'être les seuls concernés par l'augmentation du flux migratoire. Au Mexique, 400 000 personnes traversent chaque année le territoire et elles sont environ 20 000 à être enlevées par les mafias locales. Les migrants voyagent dans de terribles conditions et certains meurent durant leur périple. Pour leur venir en aide, l'église locale a mis en place des centres d'accueil et d'autres initiatives ont vu le jour, comme Las Patronas. Depuis une quinzaine d'années, un groupe de femmes catholiques du village de La Patrona, au nord du Mexique, vient en aide à ces nombreux migrants. Elles ont reçu du gouvernement mexicain le prix national des droits de l'homme. Esther Vazeux a rencontré le père René Micalef. Il enseigne à l'université pontificale grégorienne de Rome l'éthique politique et la morale sociale migratoire. En 2012, il s'est rendu au Mexique où il a visité des centres d'accueil. Il s'attarde sur le travail de Las Patronas.
Ces groupes de femmes dans l'état de Veracruz au Mexique ont rencontré des migrants qui voyageaient sur un train qui leur ont demandé des choses pour manger. Alors, ils ont découvert cette réalité. Quelquefois, c'est très facile qu'on ne mange pas pendant des journées et à cause de la fatigue, ils n'arrivent pas à rester attachés au train. Quelquefois, il y a des gens qui tombent sur les rails et qui meurent, qui voient des jambes amputées par le train. Donc, ces femmes ont décidé que c'était une belle chose, c'était aussi leur vocation de pouvoir donner quelque chose à manger à ces gens.
Mais concrètement, comment s'organisent-elles ?
Ils se sont organisés dans leur pays pour faire des paquets de riz, d'autres nourritures et aussi des bouteilles d'eau et les lancer à ces gens sur le train pour pouvoir donner quelque chose à manger. Cette initiative, c'est très intéressant parce que ça a existé pendant plusieurs années. Beaucoup de gens ne savaient pas et a été découverte avec un groupe d'étudiants qui faisaient le chemin avec les migrants. Ils ont rencontré ces femmes.
Quels sont les risques rencontrés par ces migrants qui viennent des pays d'Amérique latine et qui traversent le Mexique pour aller aux États-Unis?
La situation, c'est très grave avec tous les enlèvements, toute la criminalité, les gens qui sont tués par les mafias, qui sont enlevés. On pense que plus de 70% des femmes sont violées dans le chemin, que une grande partie des hommes sont blessés de quelque manière, ou on les torture pour extorsionner de l'argent. Donc c'est aussi une manière de réagir contre la violence et contre le crime au Mexique. Et de ce côté-là, du côté des droits humains, il y a beaucoup aux États-Unis qui voient bien ce travail. Bien sûr, c'est un peu ambigu parce que le gouvernement américain veut et demande au Mexique de chercher des manières pour réduire ce flux, ce passage des gens.
Durant ces dernières années, il y a tout un réseau qui est né pour aider les migrants, qui sont souvent éprouvés par leur voyage. Face à ce phénomène, les Mexicains et l'église locale ont créé des centres d'accueil. Mais concrètement, que proposent-ils ?
Bien sûr, dans ces dernières années, il y a tout un réseau qui est né autour du couloir de migration au Mexique, avec plus de 60 organisations qui aident les migrants, avec des possibilités de rester une nuit dans une dortoir, ou de la nourriture, ou des centres d'information sur les droits, ou des aides pour ceux qui se blessent dans le chemin.
Y a-t-il des dangers pour les bénévoles ? bénévoles et pour l'église locale qui aide les migrants.
Il y a des menaces des mafias dans les différents lieux de Mexique. Bien sûr, si on commence à parler de droits humains, si on va un peu au-delà de simplement donner quelque chose à manger, mais on commence à parler de la criminalité, aussi des liens entre la criminalité et les instances de police et de gouvernement, on est immédiatement menacé. On connaît des cas comme Alejandro Solalinde et autres prêtres qui ont dû se cacher pendant des mois parce qu'on cherchait de les tuer.
Le père René Micalef, interrogé par Esther Vazeux, un témoignage à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Le pape François s'est adressé aux participants de la conférence asiatique sur la famille. Dans un télégramme signé par son secrétaire d'État, Pietro Parolin, il se dit heureux de la tenue de ce rassemblement qui se déroule ces jours-ci à Manille, aux Philippines. Rappelant que la famille est la cellule fondamentale de la société, où nous apprenons à vivre ensemble dans la différence et à appartenir aux autres, le Saint-Père exhorte tous les croyants rassemblés à approfondir leur expérience de foi et de communion sous la conduite du successeur de Pierre et des évêques, de façon à être le levain de l'amour du Christ au sein de l'humanité. Le congrès se tient sur le thème « Famille d'Asie, lumière d'espérance ». Il est organisé pour la première fois à Manille par les évêques philippins avec la collaboration du Conseil pontifical pour la famille et se déroulera jusqu'à ce vendredi. Toujours concernant la famille, à noter que se tenait ce jeudi la 20e journée de la famille promue par l'ONU sur le thème « Promouvoir l'intégration sociale et la solidarité transgénérationnelle ». Parmi les prises de parole à la tribune des Nations Unies à New York, à noter celle de Mgr Paglia, le président du Conseil pontifical pour la famille. Nous reviendrons sur cette intervention dans nos prochaines éditions. Non, la religion n'est pas taboue dans les entreprises, c'est la conclusion d'une nouvelle étude menée par l'Institut Randstad et l'Observatoire du fait religieux en entreprise. Pour la deuxième année consécutive, cette enquête ausculte la pratique de la religion et les discussions autour de ces thèmes au sein des entreprises. Principale conclusion de l'étude, les employés estiment nécessaire que l'entreprise garantisse également une certaine neutralité, même si la religion est tolérée si elle est pratiquée de façon personnelle. Les cas problématiques restent extrêmement minoritaires, ce qui rassure Abdelhaï Sou, directeur général du groupe Randstad France, commanditaire de l'étude.
Il y a une très grande tolérance à la religion de l'autre. En revanche, il y a une expression extrêmement claire. Les salariés et les managers disent dans le même mouvement qu'ils ne veulent pas se voir imposer de l'extérieur une prescription religieuse. Par exemple, très concrètement, les salariés ne souhaitent pas manger kasher ou halal ou avoir par principe du poisson le vendredi. Ils acceptent parfaitement que leurs collègues aient ce type de contrainte alimentaire, mais la responsabilité de l'entreprise, c'est de garantir au fond une forme de neutralité pour eux. Le monde de l'entreprise n'est pas totalement hermétique à ce qui se passe dans la société. L'entreprise, elle a une fonction économique, sociale, mais on s'aperçoit de plus en plus qu'elle a aussi une fonction sociétale. Les salariés aimeraient savoir quel est le point de vue de leur entreprise. Évidemment pas sur des sujets politiques, mais sur le développement durable. Ce que j'appelle une doctrine d'entreprise est importante pour, au fond, fixer des règles du jeu. Les salariés français ayant des convictions religieuses acceptent absolument qu'on puisse leur répondre par la négative du moment que cette réponse est claire et cohérente. Dans 97% des cas, les problèmes sont traités localement sans aucun, si j'ose dire, problème. On a 3% de cas bloquants, et précisément face à ces cas qui peuvent empoisonner la vie de l'entreprise, il faut absolument être cohérent, à la fois au regard du code du travail et dans la cohérence de la position prise.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. C'est ainsi que s'achève cette édition. Au nom de toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation, merci de l'avoir suivie.